Chapitre 4. Restées seules et ne songeant plus à leur soif, les quatre femmes maintenant fumaient chacune leur cigarette. Sur une chaise, à côté d'Héloïse, Miss couchait, sommeillait. Le garçon était déjà venu desservir les tables sur lesquelles il n'y avait plus que les carafes, la moutarde près du pyrophore, plein d'allumettes, des verres propres retournés et les serviettes encore dépliées à côté de leurs ronds en étain. Puis Charles était allé remplacer au comptoir le gros Victor qui devait faire sa sieste. Les deux Adèle, Marie la Frisée et Héloïse, parlaient encore de Lucie Pellegrin. Dans la nonchalance de leur digestion, dans l'accablement de l'après-midi de juin, au fond de l'étroite arrière salle où leur désœuvrement, qui se sentait chez lui, s'acoquinait parfois du déjeuner jusqu'au dîner, elles en parlaient tout doucement, entre elles, en bonnes amies qui trouvent du charme à échanger leurs impressions et à remuer des souvenirs. Cette Lucie Pellegrin, que l'autre Adèle n'avait vue que deux ou trois fois, Héloïse et Marie la Frisée la savaient par cœur, comme toutes les habituées de l'Élysée-Montmartre, de la Reine Blanche, de la Boule Noire, du Château Rouge. Mais c'était la grande Adèle qui en savait le plus sur son compte, elle qui se disait du même quartier, de la même rue, qui avait connu Lucie honnête, qui l'avait vue débuter, qui, en 8 ans, l'avait plus de 20 fois perdue de vue et retrouvée, enfin avec laquelle elle se trouvait en froid depuis 1 an, sans se souvenir au juste pourquoi. Cette Lucie Pellegrin, toutes trois se plaisaient à la raconter, à l'expliquer, à la discuter pour leur nouvelle camarade, pour la femme de province devenue depuis peu une femme de Paris. Il fut d'abord question de sa beauté. L'autre Adèle, une de ces filles qui jettent à tout propos dans la conversation un « Moi, je sais que je ne suis pas ceci, que je ne suis pas cela », contraint et pincé, mais qui ne reconnaissent pas volontiers une supériorité chez les autres, disait « C'est comme aussi on me l'avait donné pour si jolie. Moi, je n'ai guère trouvé. » « Il ne fallait pas dire que Lucie Pellegrin n'était pas jolie », se récrièrent les trois femmes. « C'était tout ce qu'on voudrait, une sotte, une sans-cœur, une rouleuse, mais elle était belle. Sans l'admirable régularité de son visage, d'où lui serait venue sa réputation ?»« Elle a eu de la chance », objectait l'autre Adèle. « Sans doute qu'elle en a eu, » dit Héloïse, « mais qui de nous n'en a pas, un soir ou l'autre, de la chance ? Seulement, ça ne dure pas. Et pour Lucie Pellegrin, la chance durait, voilà. C'était donc plus que de la chance. » « À Bullier, » dit Marie la Frisée, « à Tivoli Vauxhall, à Valentino, à Mabille, elle était aussi connue qu'au bal du chalet, au Batignolles. Si elle soupait chez Peters, comme si elle allait à minuit manger une choucroute à Montmartre, chez la mère Bontard, voici la Pellegrin, disait-on, et chacun se retournait. Avec de la toilette aussi, persistait l'autre Adèle, si on avait chacune des 100 000 balles. Mais pour y arriver à cette toilette, reprit la grande Adèle, elle ne l'a pas toujours eue, que diable! Elle est née vers le bas de l'avenue de Saint-Ouen, dans une ruelle de chiffonniers, près des fortifications. Ses parents, qui dormaient pendant le jour, l'envoyaient aux carrières de Montmartre, ramasser au milieu des décombres, du verre cassé, des débris de bois, jusqu'à de la poussière de charbon. Tous les après-midi, moi, qui demeurais rue Marcadet, je la voyais passer portant son grand panier, pieds nus, avec une bande de petits ravageurs de son âge. Quelquefois, par une longue fente, son jupon laissait voir toute sa pauvre cuisse maigre. Avec ça, elle était d'un joli, et c'est elle qui vous a commencé de bonne heure. Sa mère, qui se promenait toute la nuit, sa lanterne à la main, sous son cachemire d'osier, ne pouvait guère la surveiller. Avant 15 ans, Lucie découchait déjà. Mais plus fort que ça, à 11 ans, et elle me l'a 20 fois raconté, un jour, par un de ces temps couverts où il fait nuit de bonheur, s'étant attardée au milieu des carrières de Montmartre pour remplir son panier, Lucie, à 11 ans, entendez-vous bien, à 11 ans, fut prise par un maraudeur de carrière de mauvaise mine derrière un vieux tombereau disloqué qui se trouvait là, les deux bras levés dans le ciel. Une triple exclamation interrompit la grande Adèle. « Oh ! » faisait simplement la jeune Héloïse. « Les hommes !» ajoutait Marie la Frisée. « Ces cochons d'hommes !» renchérissait de sa grande bouche l'autre Adèle. Depuis un moment, Marie la Frisée éprouvait comme une démangeaison de raconter à son tour. Moi, sans la connaître d'aussi loin, je la voyais tous les dimanches, après-midi, au petit bal du Moulin de la Galette. Elle venait en cheveux. Elle était dans ses 19 ou 20 ans et végétait alors dans les hôtels garnis. Elle vous avait une modeste confection de 29,50 €, toujours la même, violette, qu'il me semble voir encore. Deux petits volants plats sur la jupe, et ça lui pinçait sa taille de rien du tout, et ça luisait aux deux épaules. Là-dedans, Lucie Pellegrin, si distinguée depuis, avait un air timide et godiche. Elle dansait et riait beaucoup, entourée de toute une bande de jeunes calicots, qui s'appelaient entre eux les guapeurs, et qui lui payaient des bocs, de la galette et des balançoires. Souvent, la veille, elle s'était mise au lit sans dîner. « Et c'est avec cette femme-là, dit dédaigneusement l'autre Adèle, qu'aurait couché le roi des Belges ?» Puis, comme on se mit à rire aux éclats, interdite, de peur d'avoir lâché quelques bêtises, elle ajoutait « Vous savez, c'est ce qu'on m'a dit, je ne fais que répéter. » La grande Adèle, qui avait ri plus fort que les autres, redevint tout à coup sérieuse et, jetant son bout de cigarette, déplaçant un peu sa chaise pour se mettre en face de l'autre Adèle, elle reprit la parole. « Voici le fin mot sur cette bonne histoire du roi qu'un tas d'imbéciles ont avalé bel et bien et qui a fait la fortune de la Pellegrin. Elle a toujours été elle-même une gobeuse, en même temps très vaine et très facile à tromper. » « Cette horreur de chochotte en sait quelque chose, » interrompit Marie la Frisée, « et tant d'autres, sans compter les hommes. » « Et celui-ci, donc, » chuchota d'un air mystérieux Héloïse, en se penchant par-dessus mise endormie sur une chaise, pour voir si le gros Victor n'était pas revenu au comptoir. Alors, continua la grande Adèle, une après-midi, dans le passage de l'opéra, où elle attendait, je crois, la fin d'une averse pour remonter aux Batignolles, elle fit la connaissance d'un étranger. Le lendemain matin, elle montrait à tout le monde un billet de 100 francs, très émue, très montée, racontant qu'elle avait touché au grand hôtel avec le roi des Belges, de passage à Paris, incognito. Cela dura 3 semaines. Elle vous regardait du haut de sa grandeur. Elle s'était achetée sa première robe de soie chez une marchande à la toilette, à crédit. Elle portait des gants. On ne la voyait plus qu'en sapin et elle recouchait tous les 2 soirs au grand hôtel avec le roi, son amant. Le lendemain du départ du roi, Lucie Pellegrin disait à qui voulait l'entendre qu'à la gare du Nord, avant de monter en wagon, le roi des Belges lui avait demandé si elle préférait recevoir de Bruxelles une traite de 30 000 francs sur M. de Rothschild ou une rivière de diamants, et qu'elle lui avait répondu « Sire, je ne me vends pas et n'accepterai jamais qu'un souvenir de votre majesté. » Elle attendit longtemps, vous pensez bien. Puis, quand elle comprit enfin qu'on lui avait monté le coup, elle s'était montrée trop crédule et trop vaniteuse pour oser en convenir. La crainte du ridicule la força d'aller toujours de l'avant, et le plus curieux, c'est que le canard passa à merveille. Elle trouvait du crédit. Des photographes la prirent dans toutes les poses pour leur collection d'actrices et de célébrités. Elle était lancée. Elle finit par pouvoir s'acheter elle-même sa rivière, son souvenir du roi des Belges. Et la grande Adèle se tut, se mit à plier soigneusement sa serviette pour la passer dans le rond en étain sur lequel était gravé, à la pointe du couteau, un grand A. Marie la Frisée se leva, secoua les miettes de pain qui avaient pu tomber sur sa jupe, puis se rassit. Héloïse caressa légèrement la tête de Miss, qui dormait toujours. L'autre Adèle seule desserra les lèvres. « Les hommes sont bien bêtes !» Elle n'en dit pas plus, et dans l'arrière-salle de chez Victor, il y eut un moment de grand silence. Ces 4 femmes, à la pensée de la fortune bizarre, soudaine, inespérée, de Lucie Pellegrin, restaient confondues et éblouies, comme devant un bouquet magique de feux d'artifice.